Donc, Erev Tov, les Koulam, et on revient dans notre étude sur la Parashat HaShavua, et on est donc arrivé Parashat Mishpatim, les amis. Parashat Mishpatim, et tout de suite, quand on parle de Parashat Mishpatim, la première chose qu'il faut se poser comme question, c'est, eh bien, ce que nous enseigne, j'allais dire, le début de la Parasha, qui passe comme une lettre à la poste, mais on ne se pose pas la question. On nous dit « Ve'ele ha-mishpatim asher tassim lifnehem » et voici donc les mishpatim que tu placeras devant eux. Et Rashi tout de suite nous explique que là où il y a marqué « Ve'ele », c'est quelque chose que vous connaissez, eh bien ça fait rajouter à ce qui a été dit avant. Quand il y a marqué juste « Ele », alors ça vient faire opposition à ce qu'il y avait avant. Mais lorsqu'il y a marqué « Ve'ele », ça continue ce qu'il y avait marqué avant. Et donc, Rashi nous cite nos sages en disant, donc ce qu'il y avait avant, c'est les 10 commandements à Sinaï. Donc on te dit, ma ele mi Sinaï, af ele mi Sinaï. Ok, mais moi ma question, c'est, et s'il n'y avait pas eu marqué ve'ele? S'il n'y avait marqué ni ve'ele, ni ele. Imaginons que la paracha commence en disant, Ve'aya mishpatim ha'ele, ou vayehi mishpatim ha'ele, ou alors simplement, mishpatim ha'ele, ou vaydaber Hashem el Moshe el Emor, mishpatim ha'ele asher tassim lifnehem. Plein de formules qu'on a dans la Torah. Est-ce que j'aurais eu un hava amina, j'aurais eu un postulat de départ, de penser que ces mishpatim ne sont pas donnés au Mont Sinaï? Comprenez-moi bien, c'est pas seulement qu'il y a une semaine d'écart entre les deux dans la paracha que nous on va lire à la Torah. Dans le texte de la Torah, tu tournes une page, tu as fini la paracha des 10 commandements, tu arrives à Ve'ele ha-mishpatim. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison que je pense que ces mishpatim-là ont été donnés ailleurs qu'au Har-Sinaï. Donc, pourquoi c'est tellement important et comme si on ne le savait pas, que ma ele mi Sinaï a fait ele mi Sinaï. Qu'est-ce que ça vient tellement m'apprendre? Eh bien, la question est la suivante. À qui s'adresse la Torah? À qui ça s'adresse? C'est pour qui ces fameux mishpatim qui vont arriver? Est-ce que c'est pour les goïms? Non. C'est pour les juifs. Est-ce que c'est pour tous les juifs? Ou est-ce que c'est que pour les rabbins? Tu dis tous les juifs. Maintenant, on connaît, nous, il y a plein de gens qui disent « Non, mais ça, c'est pour les religieux. » Il y a plein de juifs comme ça qui disent « Non, mais ça, c'est pour les religieux. » Maintenant, pourquoi je pose cette question-là? Parce que, évidemment, que la Torah, elle a été donnée pour tout le monde, et évidemment que « Ve'ele ha-mishpatim », c'est pour tout le peuple juif. Mais pourquoi la Torah se pose la question à tel point qu'elle est obligée de dire « Non, 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 elles ont été données aussi au Sinaï. » Parce que par quoi commence la liste des Mishpatim? Elle commence par le concept de Kitikne Eved Ivri. Mais ce Eved Ivri, eh bien, il faut se poser la question. D'où il vient? Pourquoi on est face à un esclave? On vient de sortir d'Égypte. De quel esclave s'agit-il? Dans le judaïsme, il y a, dans l'époque de la Torah, il y a deux façons, deux options pour être esclave juif. Il y a aussi les esclaves cananéens, mais ça, j'en parle pas. Je parle des esclaves juifs. Il y a deux raisons qui peuvent te pousser à être esclave. La première, c'est que tu n'as pas de quoi subvenir à tes besoins. Et donc, tu te dis, je vais me vendre comme esclave et au moins, je serai nourri, logé chez mon maître. Ok ? Ça, c'est celui qui se vend en esclave et donc il arrive sur le marché aux esclaves et il se fait acheter par un maître juif. Mais ce n'est pas cet esclave-là qui est mis en valeur ici. Le Kitikne Eved Ivri nous dit tout de suite Rashi, qui reprend nos sages, disant qu'il s'agit d'un esclave qui a été vendu par le Bet Din. C'est quoi un esclave qui a été vendu par le Bet Din? Eh bien, c'est très simple. Quelqu'un qui a commis un dommage à son prochain et qui n'a pas de quoi rembourser, alors, eh bien, ça n'existe pas la prison dans le judaïsme. Prison est un concept complètement absurde. T'imagines, la personne, elle a volé. Et maintenant, la personne qui a été volée va nourrir et loger cette personne par ses impôts pendant 10 ans. C'est complètement absurde. Donc, dans le judaïsme, il n'y a pas la notion de prison. Il y a la notion de « tu ne peux pas rembourser, ben, tu vas travailler pour rembourser ». Et donc, le Beit Din va vendre cet homme-là comme esclave, d'ailleurs pas forcément à la personne à qui il a fait le dommage, mais il va le vendre de sorte qu'il devra faire maintenant de ce qu'on appelle des travaux d'intérêt général. Mais en fait, ce n'est pas d'intérêt général, c'est des travaux d'intérêt particulier. C'est-à-dire qu'il va travailler et tout ce qu'il va gagner, eh bien, ça sera donné à la personne à qui il doit rembourser ce qu'il doit rembourser. OK ? Ça, c'est au niveau de la halakha. Mais sauf que là, tout de suite, on doit se poser cette question. Mais comment ça ? Il y a des voleurs ? Mais pourtant, dans la page d'avant, il n'y avait pas marqué « Lotignov » ? Dans les 10 commandements, il y avait marqué « Lotignov ». Alors, je ne rentre pas dans le détail que là-bas, ça parle de Gonev Nefashot. « Lotignov ». Donc quoi ? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne respectent pas la Torah ? Nachon. Il y a des gens qui ne respectent pas la Torah et pourtant la Torah leur parle quand même. Ma elem isina et que Dieu il a parlé à tout le peuple juif. Grand, petit, religieux par religieux, Ashkenaz, Sepharad, il a parlé à tout le monde. Af elem isinaï. Les lois de la Torah parlent également à tout le monde. Même celui qui décide de ne pas les respecter, eh bien, il doit les respecter. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu as décidé que tu voulais pas faire la Torah que la Torah n'est pas pour toi aussi. La Torah est pour toi, et donc ça veut dire que le jour où tu décideras de revenir, eh ben, ça sera pas, tu seras pas un étranger. Puisque la Torah, elle te parle à toi dès le départ. C'est-à-dire ? Maintenant, la parasha de Mishpatim, elle a trois axes de lecture. Elle a l'axe de lecture pour la génération de Moshe. Elle a l'axe de lecture pour les goyim. Parce que je vous rappelle que la Torah Shebirtav a également, eh bien, une importance aux yeux des nations. Et oui, pourquoi est-ce que je dis ça ? Ben, je vous rappelle ce que dit le premier Rashi de la Torah. Lorsque Rashi demande « Lo et atzra Torah latril be bereshit et la me'achodesh azeh lachem rosh chodashim » Eh bien, là-bas, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit pourquoi est-ce que ça a commencé par Bereshit ? Que si les goïms viennent dire « Vous avez volé la terre des Cananéens », on aura quoi leur répondre ? Donc la Torah écrite, elle est aussi pour être une réponse aux goïms. Donc il y a un axe de lecture de la parasha de Mishpatim face aux goïms et un axe de lecture face à moi, qui lit la paracha de Bereshit et la paracha de Mishpatim quelques 3500 ans après qu'elle ait été donnée. Et il est évident que selon l'axe de lecture, eh bien, on va mettre en surbrillance d'autres versets. Mais quand on parle de nos ancêtres en Égypte, lorsqu'ils vont entendre la paracha de Mishpatim, eh bien, la vraie question, Mishpatim, c'est quand on regarde très, très simplement, à 90% de la paracha, c'est Dine Nezikin. C'est les lois sur le litige, qu'on, les problèmes, les dommages qu'on peut créer à son prochain. Du plus grave au moins grave. Et là, c'est très important de le dire. Du plus grave au moins grave. Comment est-ce qu'on peut comprendre les hommes de Masada, par exemple, qui décident de mettre fin à leur vie plutôt que de tomber entre les mains des Romains. Parmi eux, il y avait des religieux. Comment ont-ils pu accepter l'idée de s'entretuer plutôt que de tomber entre les mains des Romains ? Eh bien, peut-être se sont-ils référés à la paracha de Mishpatim. puisqu'on l'a dit, ce sont les dommages qu'on peut créer à son prochain, du plus grave au moins grave. Et donc, on aurait pu penser que la Torah va commencer par « si jamais quelqu'un tue son prochain », c'est pas mal grave de tuer son prochain, c'est pas mal grave. Mais non, la Torah ne commence pas par celui qui aurait tué son prochain, mais la Torah commence par « qui tikne eved ivri ». En d'autres termes, l'esclavage, d'après le judaïsme, est pire que la mort. Pire que la mort, l'âme. Eh bien, parce que dans la mort, c'est ton corps qui meurt, alors que dans l'esclavage, c'est ton corps et ton âme. Et donc, l'esclavage, c'est le pire dommage qu'on peut créer à son prochain. Après, il y a celui qui tue quelqu'un. Après, il y a, si jamais mes biens tuent quelqu'un, après, on est simplement des biens et on va décrescendo, en fait. Mais la question qu'on se pose, c'est, ok, j'ai compris que la Torah parlait à tout le monde, c'est-à-dire, mais pourquoi est-ce que c'est ça la première chose que Dieu va nous donner? Oui.
Si c'est la pire des choses d'avoir de prendre un esclave, pourquoi est-ce que la Torah ne dit, tu n'auras pas d'esclave? Il n'y aura pas d'esclave.
Eh oui, tu poses la vraie question. Si c'est le plus grave d'avoir un esclave, pourquoi est-ce que la Torah ne dit pas, ne prends pas d'esclave? Eh bien, je vais te répondre avec l'air du temps. Si je te disais aujourd'hui, je suis un grand rabbin avec une grande barbe jusque-là, et je te dis, pas Shabbat, hein, toujours, assour d'utiliser l'électricité. Est-ce que ça marchera? La réponse est non. Parce qu'aujourd'hui, de rejeter l'idée de l'électricité, c'est infaisable. Demain, les rabbins qui diront on ne peut pas utiliser Internet, c'est pas cachère. Il y a encore 2-3 rabbins qui réussissent dans leur communauté. Mais demain, ce ne sera pas possible. Demain, quand tu auras ta maison connectée. Les amis, c'est ce qui va se passer demain. Hein, la question de savoir Internet, pas Internet, ce ne sera pas une question. Donc, de la même façon, il y a 3500 ans, dans la société de l'époque, dire qu'on arrête l'esclavage, ce n'est pas audible. Les gens, ils descendent de d'arrêter l'esclavage. Mais bien sûr, il ne manquerait plus que ça. Et on va arrêter de boire aussi de l'eau. T'as raison. C'est complètement inenvisageable pour l'époque. Donc la Torah, eh bien, elle va tout simplement dire, je sais très bien que tu ne peux pas arrêter l'esclavage, mais donc je vais te mettre des règles pour que chez nous, l'esclavage, ça soit un esclavage 5 étoiles. Et que ça vaut vraiment le coup d'être esclave chez un juif d'après la halakha. Donc, si tu veux, on ne peut pas dire que c'est assourd dans la Torah chez Birtav. La Torah chez Béalpé, lorsque le monde va évoluer et va arriver à un stade où bah, on ne prend plus d'esclaves, où l'esclavage commence à être prohibé dans le monde, eh bien, les rabbanim tout de suite vont dire que c'est assourd. Et donc, aujourd'hui, assourd de prendre des esclaves. Bien que ça pourrait régler pas mal de problèmes. En particulier dans le domaine de la conversion. Il y a aujourd'hui des gens qui essaient de se convertir et ça leur prend un an en Israël, un an et demi, 3 ans, 4 ans en France. Très très dur de se convertir. Alors qu'en vérité, d'après la halakha, on peut se convertir en 5 minutes. 5 minutes. Ben oui, il suffit que le goy se vende à moi comme esclave. 5 minutes plus tard, je le libère. Ve eved meshuchar ou Yehudi. Zéou. 5 minutes. Bon, après, il faut trouver un petit mikvé pour le mettre dedans, mais 5 minutes. Tchik-tchak. Bon, le problème, c'est que si je suis officiellement son maître et qu'il est mon esclave, je risque d'aller en prison. Parce que c'est interdit par la loi de pratiquer l'esclavage. Donc, il semblerait qu'il n'a pas le choix que de passer dans un machon de Giyour et ça lui prendra un an ou plus. En malasot. Mais donc, tout ça pour dire que effectivement l'esclavage, c'est la pire chose qu'on puisse mettre, créer et endommager un être humain. Donc, une fois qu'on a dit cela, alors, ben, c'est-à-dire, j'ai compris, mais pourquoi est-ce que, de manière générale, la première chose que Akadosh Baruch Hu va nous donner après les 10 commandements à Sinaï, c'est Parashat HaMishpatim. Pourquoi je dis ça? On a dit les Mishpatim, c'est comment ne pas porter atteinte à son prochain. Mais on aurait pu dire que la Parashat maintenant va s'occuper d'autre chose. Par exemple, on aurait pu nous donner une liste de lois Ben Adam Lamakom. Ça aurait pu être ça, la suite de Har Sinaï, la suite des 10 commandements. Ça aurait pu être une liste de choses envers moi et moi-même. Pourquoi est-ce que la première chose que la Torah va nous donner juste après Mahamad Har Sinaï, c'est Parashat HaMishpatim? Eh bien, répond à cela le Talmud dans le traité de Baba Kama. Le traité de Baba Kama nous dit la chose suivante à la page 30. Abba Rabbi Yehuda, Haïman de Baal Mei ve Chassida. Qu'est-ce que tu dois faire pour être chassid? Tov, dit Rabbi Yehuda, le Kayem Milei de Nezikin. Il faut faire tout ce qui est marqué dans Maseret Nezikin. Alors Maseret Nezikin, c'est quoi? C'est Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra ve Sanhedrin. C'est Nezikin. Donc Rabbi Yehuda nous dit, pour être chassid, Nezikim. Rava, il n'est pas d'accord avec lui. Rava, il dit, Rava Amar, Mileid Avot. Non, il faut faire tout ce qui est marqué dans ma Maseret Avot. Et Amrelei, il y en a qui disent, non, il faut faire ce qui est marqué Mileid Brachot. Dans ma Maseret Brachot. Quand on y réfléchit, dans Brachot, il y a tout ce qui nous rattache à Dieu. Dans Avot, c'est tout ce qui me rattache à moi, à ma morale, à moi. Et Nezikin, c'est ce qui me rattache à mon prochain. En d'autres termes, dire Rabbi Yehuda, si tu veux être un chassid, il faut d'abord être bien sur le point de vue de Ben Adam Lachavero. L'âme. Pourquoi est-ce que le plus important, c'est Ben Adam Lachavero? Eh bien, c'est Ben Adam Lachavero pour une simple raison. Mise Chavero chez la Adam, eh bien par excellence, c'est Ribono chez l'Olam. Le lien que j'entretiens avec mon prochain, c'est le lien que j'entretiens avec Dieu, et il ne peut être entretenu que par mon niveau personnel. Et c'est donc pas pour rien que Rabbi Akiva dira Ve'avta le'reacha kamocha zeklal gadol batorah, on a dit la semaine dernière. ואהבת לרעך, זה בן אדם לחברו, כמוך בן אדם לעצמו, ואני השם בן אדם למקום. Ça commence par בן אדם לחברו. Et d'ailleurs, quand on se pose cette question-là, qu'est-ce qui est mieux au niveau de la halakha? Est-ce qu'il vaut mieux donner la tzedaka, faire du bien à son prochain, ou s'empêcher de lui faire du mal? C'est une bonne question, ça. Qu'est-ce qui vaut mieux? Faire du bien à son prochain ou ne pas lui faire du mal?
Faire du bien à son prochain.
Faire du bien? Jackie, tu dis quoi, toi? Faire du bien?
S'empêcher de faire du mal, ça veut presque dire s'écarter de lui, ne pas faire attention à lui, il n'y aura pas de problème, je ne vais pas lui faire de mal, etc.
Et donc, toi, tu dis, vaut mieux lui faire du bien. Ok? Eh bien, je ne suis pas d'accord. D'abord, ce n'est pas parce que tu ne fais pas du mal à ton prochain que tu t'éloignes de lui.
Si tu es sûr que si tu t'éloignes de lui, tu vas pas l'éloigner.
Mais d'accord, mais ce n'est pas parce que je ne fais pas de mal à mon prochain que je suis forcément loin de lui. D'accord? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est beaucoup mieux de s'empêcher de lui faire du mal plutôt que de lui faire du bien. Lama. Parce que lorsque je fais du bien à mon prochain, אני חודר לפרטיות שלו. Lorsque je donne quelque chose à mon prochain, je suis très sympathique, mais j'ai pénétré dans son domaine à lui. Je me suis introduit dans sa vie. Peut-être qu'il ne voulait pas. Peut-être qu'il voulait, mais que maintenant il est mal à l'aise.
Enfin, faire du bien à son prochain, ça ne veut pas dire que je vais prendre l'aveugle et faire traverser la rue quand il ne veut pas la traverser.
C'est pas de ça que je parle. Je dis que lorsque je fais du bien à mon prochain, c'est-à-dire que mon prochain, il est dans le besoin, je le sais. Ok ? Je vais lui donner de la tzedaka. Aval, maintenant, il se sent redevable envers moi. Et même si...
Pas de manière anonyme.
Allez, mais c'est ce que j'allais dire comme suite de phrase. Et même si tu le donnes de manière anonyme, il sait qu'il est redevable en quelqu'un. Et son indépendance, sa liberté a été quelque part entachée. Alors que si je lui laisse son domaine et je me garde bien de lui porter atteinte, il peut exprimer toute son identité librement. Ainsi, il est beaucoup plus fort de ne pas faire de mal à son prochain que de lui faire du bien. Bon, bien sûr que si c'est ou tu lui fais du mal ou tu lui fais du bien, bah fais-lui du bien. Barreau. Mais que disent les mères polonaises de toutes les traditions que ce soit, hein, qu'elles soient polonaises du Maroc ou polonaises de Pologne, c'est l'homme échané. Mais que disent toutes les mères polonaises qui voient leur fils ne pas faire ce qu'elles ont rêvé qu'elles fassent? Il dit, mais pourquoi il me fait ça après tout ce que j'ai fait pour lui? Mais Nachon, t'as tellement fait pour lui qu'il n'a pas pu s'exprimer. Et donc maintenant, il claque la porte. Il veut s'exprimer. Il veut être libre. C'est toujours le grand débat qu'on a avec ma femme, même si c'est elle qui a raison. Est-ce que tu dois ranger derrière les enfants ou pas ? Moi qui ai un problème avec le balagan, eh ben je range. Et à chaque fois que je ramasse un truc de mes enfants, je m'énerve. Et à chaque chaussette, je m'énerve plus. Elle me dit, mais si tu les ramasses tout le temps, ils savent très bien qu'ils peuvent ne pas les ramasser. Et ça ne les aide pas. Sauf que d'un autre côté, je ne sais pas si elle a raison. Je pense qu'elle a raison, mais je ne suis pas sûr. Parce que j'avoue que ma mère, elle était comme ça aussi. Et elle ramassait toujours derrière nous. Et ben aujourd'hui, je ramasse tout seul comme un grand. Donc je ne sais pas. Mais il semblerait qu'elle a quand même raison. Et qu'effectivement, si tu fais pour l'autre, ça ne lui fait pas tellement en fait du bien. Ça lui fait du bien sur le moment. Mais ce n'est pas vraiment ça l'idéal de lui donner son indépendance. Donc nous dit ici la paracha, voilà la liste des choses que tu dois faire, ou du moins ne pas faire, parce que la majorité des mitzvot de paracha de Mishpatim sont des mitzvot lota assez. Voilà ce que tu dois ne pas faire envers ton prochain pour ne pas porter atteinte à son indépendance et à sa liberté. Alors, Saïder, ok, donc on a dit, on va décrescendo dans la gravité des choses. Beseder. Donc il y a celui, on a dit, qui prend la liberté de l'homme. Ensuite, il y a celui qui va prendre sa vie. Mais là, dans le fait que tu vas prendre la vie de l'autre, eh bien, il y a plein de dimensions différentes. Quand je prends la vie de quelqu'un, enfin, pas moi, hein, quelqu'un, l'homme chané. Quel est le din ? Eh bien, pour la Torah, les choses sont claires. Si c'était volontaire, alors met misbechi tikachen olamut. Mais im misbechi tikachen olamut. C'est-à-dire que même s'il s'accroche au misbeach, est-ce qu'on connaît quelqu'un qui a tenté de faire ça ? Eh oui. Nachon. S'accrocher bekarnot amisbeach, c'est devenu une expression en hébreu. Ken leaches bekarnot amisbeach. Penser que tu es intouchable. C'était Avner ben Ner qui a été tué par Benayahu ben Yehoyada. Qu'est-ce que je raconte ? C'était pas Avner. Je dis n'importe quoi. C'était Adoniyahu ben Chagit. C'est n'importe quoi. Adoniyahu, qui s'était révolté contre Shlomo, eh bien, Benayahu ben Yehoyada a été envoyé pour le tuer. Il s'est accroché au Karnat HaMizbeach. Il pensait que ça allait le sauver. Shum davar. Donc, celui qui a tué Bemezid, Bemezid, Med Mizbechit Ikachenu Lamt. Ah ben, celui qui a tué Beshogeg. Celui qui a tué Beshogeg, qu'est-ce qu'on fait ? On fait Galout. Mais moi, je voudrais proposer une troisième possibilité. Pourquoi est-ce que je ne rembourserai pas ? Bon, ben, j'ai tué quelqu'un. Bon, ben, oups, autant pour moi. J'ai beaucoup d'argent. Je paye. Dites-moi combien ça coûte cette personne. Puisque ça marche pour l'œil. Hein, qu'est-ce qu'il en pense, l'ophtalmo ? Œil pour œil, dent pour dent.
C'est un problème d'œil.
D'après la Torah, si je t'ai enlevé l'œil, eh ben, je l'emmène chez toi. Tu prends tes meilleurs instruments et tu lui enlèves l'œil. Œil pour œil.